Je crois qu'il y avait une forte spiritualité, mais cette spiritualité était souvent cantonnée au monastère. Il y avait le chant grégorien, la connaissance des textes, etc. Il faut éviter les clichés trop simplistes, mais on peut malgré tout dire que la foi n'était pas vraiment vivante dans cette église où on célébrait certes des messes, mais où la piété individuelle était très peu répandue. Vous avez la découverte de l'imprimerie, vous avez les premiers textes qui circulent et vous avez une explosion des demandes d'éducation. Et c'est souvent les couvents qui en prennent l'initiative, mais ça sort souvent des murs des couvents. Et comme la spiritualité des couvents, cela va se répandre dans le peuple de l'époque.
C'est dans ce contexte que le pape Léon X étend le commerce des indulgences pour financer la restauration de la basilique Saint-Pierre. Et c'est une pratique contre laquelle s'insurge un moine allemand qui s'appelle donc Luther. Que sait-on exactement de ce personnage ?
Ce qu'on sait surtout, c'est que c'est un moine qui a accès aux textes bibliques, qui retourne aux textes bibliques. On note quand même que jusque-là, la plupart du temps, les Bibles étaient tout simplement l'œuvre de copistes dans des monastères et que la Bible, en tant qu'ouvrage, n'avait pas du tout atteint une diffusion, même au niveau des paroisses, voire de certains diocèses. Donc, il travaille le texte et il fait des découvertes, en particulier en travaillant la théologie de Paul et aussi la théologie de Jean. Et il trouve que le message de l'Église n'est plus en conformité avec le message biblique. Alors on va mettre en avant, pour des raisons surtout aussi de piété populaire, ces fameuses indulgences qui sont peut-être moins graves qu'on ne le dit, d'autant plus que les indulgences ne permettaient pas d'acquérir le salut éternel, mais libéraient simplement des peines que l'on devait subir dans ce qu'on appelait le purgatoire. En ce sens, sa critique trouve un certain écho, mais les choses sont beaucoup plus fondamentales. Il s'agit en fait d'une redécouverte de ce qu'est la foi, c'est-à-dire une relation vivante. Luther insistera sur le fait, c'est l'épître aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, une relation de piété, de spiritualité quotidiennement vécue. C'est à cette fin qu'il écrira des livres de prière, qu'il popularisera les cantiques, etc. Tout simplement pour parvenir à ressouligner la relation personnelle entre le croyant et Dieu, et puis cette relation personnelle qui s'ouvre automatiquement aux autres et qui ont une relation personnelle à Dieu, c'est-à-dire qui ensemble forment la communion qu'est l'Église.
Est-ce qu'on sait quelles étaient les intentions de départ de Luther ? Est-ce qu'il s'agissait pour lui juste de faire réagir, de provoquer un débat théologique au sein de l'Église, ou est-ce qu'il avait déjà conscience qu'il allait fonder une nouvelle religion ?
Non, son intention était tout simplement de provoquer un concile. Et pour provoquer ce concile, où on traitera de ces questions. Et vous avez la Confession d'Augsbourg, qui est le texte de 1530, qui le dit explicitement en quelques petits articles, une vingtaine. On rappelle les fondements de la foi, qui sont les fois de l'Église catholique de tous les temps. Et puis on ajoute 8 articles, qui sont les articles sur lesquels il faut avoir débat, comme par exemple l'habit monastique, le célibat des prêtres, l'autorité des évêques, qui ne saurait être confondue avec l'autorité, disons, politique et temporelle, etc. Et les bonnes œuvres qui pourraient être la source du salut, mais il est précisé, ça doit être discuté lors d'un concile. Et c'est ce concile qui n'aura pas lieu, du moins à cette époque-là.
Quoi ? La rupture est-elle intervenue aussi vite et de manière aussi drastique ?
La rupture est certes théologique et ecclésiale, mais la rupture est aussi politique. Ce sont les princes et les ducs allemands qui exigent une certaine autonomie, que d'ailleurs l'empereur va leur accorder en 1530, lors de la diète d'Augsbourg, en partie aussi à cause des difficultés politiques auxquelles il est confronté alors, c'est-à-dire le siège de Vienne, etc. Il ne peut se permettre cette opposition. Et alors les princes rentreront chez eux avec ce texte d'accord avec l'empereur et ils ordonneront les futurs pasteurs sur la base de ce texte, vu que l'autorité de l'évêque était devenue des plus problématiques. On ne va pas rentrer ici dans le détail, mais tous les historiens aussi catholiques vous diront combien l'exercice du ministère épiscopal était alors en partie même scandaleuse.
Au regard d'une telle histoire, la perspective d'un dialogue serein n'était pas forcément gagnée. Et pourtant, parmi tous les dialogues qu'a initié l'Église catholique, le dialogue avec les luthériens est parmi l'un des plus prolifiques, des plus fructueux. Comment l'expliquer ?
Le dialogue commence il y a exactement 50 ans. Il est décidé en avril 1966, d'ailleurs au Centre d'études œcuméniques de Strasbourg, qui est donc l'organe théologique de la Fédération luthérienne mondiale. Cardinal Willebrand, cardinal Béa sont présents, on décide d'un dialogue, et ce dialogue se fera d'une manière systématique. On se met d'abord d'accord sur les fondements, et ce qui est le plus surprenant, c'est que très très rapidement, on est d'accord sur la compréhension du salut. Ça, c'était en fait l'enjeu du 16e, et là, l'accord est assez rapide. Il est acquis, en fait, dès 1972. Et alors, c'est l'initiative politique de Jean-Paul II qui est très importante. Il en prend acte et puis il demande qu'il y ait pas un résultat de dialogue, mais une déclaration officiellement signée par les églises luthériennes et par l'Église catholique. C'est la fameuse déclaration conjointe sur le salut. Il demande à ne pas sortir du millénaire sans que ce soit fait. Et c'est la raison pour laquelle cet accord est signé en 1999, le 31 octobre à Augsbourg. À partir de cette date, et depuis cette date, il y a un fondement commun entre luthériens et catholiques, officiellement reçu par les magistères des deux églises, qui précise que la compréhension du salut, ce sont certes pas les mêmes mots, mais les mêmes mots expriment une même réalité. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons à présent. Nous ne sommes plus dans une situation d'opposition, nous sommes dans une situation de consensus fondamental. Et c'est bien la raison pour laquelle le jubilé de 2017 se présente sous de tout nouveaux aspects qui n'ont plus rien à voir avec les célébrations des centenaires précédents.
Quel doit être le message de cette commémoration commune ? Quel doit en être l'esprit surtout ?
L'esprit, c'est dans un monde qui a plus que jamais besoin d'une parole libératrice qui est la parole de l'Évangile, de redire ensemble, chacun à sa façon, chacun dans sa langue, chacun avec sa tradition. Il ne s'agit surtout pas de plaider pour une fausse uniformité, mais de redire ensemble le message que nous avons à dire. Et ça, c'est une tâche que nous devons relever, un défi que nous devons relever quotidiennement. Et c'est en ce sens que le modèle d'unité auquel nous travaillons, et d'ailleurs que le pape François a lui-même mis en exergue lors de sa visite à l'église luthérienne de Rome en novembre dernier, ce qu'on appelle la diversité réconciliée ou l'unité dans une diversité réconciliée, surtout pas comprendre faussement qu'il faut que les uns deviennent ce que sont les autres, mais essayer de comprendre l'autre église comme une expression authentique de l'église une du Christ, et de travailler les différences, non pour les faire disparaître toutes, mais pour changer leur caractère séparateur. Il faut que les différences perdent leur caractère séparateur. Lorsqu'elles ont perdu ce dernier, elles deviennent des différences légitimes, qui sont même une source de joie et de richesse pour l'Église universelle.